On en parle sur CFM.
12h08, on en parle sur CFM, l'émission de la rédaction. Avec nous aujourd'hui Alexandre Jardin en direct de Paris. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au micro de CFM. Il y a également Catherine Cousin et Yves Lescarroux. C'est comme ça qu'on dit Yves Lescarroux?
Tout à fait.
On prononce le S alors.
Oui, on prononce le S.
Vous faites partie du golfe de Coutainville. Monsieur le Président et la communication. Et Charlotte Laigle qui vient de sortir un EP.
Exactement.
Alors un EP pour Casimir parce qu'il n'aime pas les acronymes.
Non, les acronymes. C'est un signe de débilité mentale.
Alors, un signe de débilité mentale. Bon, eh bien on va avec vous.
Il a raison.
C'est vrai, c'est Casimir qui vous a répondu. Alors Alexandre Jardin, vous êtes scénariste, réalisateur de cinéma, écrivain reconnu. Votre dernier livre, ou un de vos derniers livres, se nomme Les Gueux. Vous êtes depuis toujours engagé dans la politique. C'est un bon résumé de votre carrière?
Mais pas dans la politique.
Dans le sens où aussi c'est de la politique. Vous ne faites pas partie d'un parti politique.
Non, voilà.
Mais ça reste de la politique.
On fait du politique, pas de la politique.
Ah, on fait du politique.
Ouais.
À votre avis, vos actions politiques ont nui à votre travail ou ça vous a fait parler de vous plutôt qu'autre chose?
Je me suis jamais posé la question. Quand je vois juste des situations de grande injustice ou d'aberration sociale avec des gens qui souffrent, je me demande toujours ce que je peux faire.
Ouais,
tout.
C'est ça qui vous motive?
Ouais, et le mouvement des gueux est né au moment où dans mon village du sud,
oui,
dans l'Aude, je me suis rendu compte que les gens de mon village étaient interdits de ville à partir du lendemain, c'était le 31 décembre,
oui,
parce qu'ils n'avaient pas les moyens de changer de voiture.
Ah, ça c'est pour les gens des feux, ça.
Ouais, et ça m'a semblé un truc de fou.
C'est de là que part le mouvement Bleu Blanc Zèbre?
Non, Bleu Blanc Zèbre, c'était avant, on rassemblait des associations, des mairies, des entreprises, qui réglait les fractures françaises, ouais, et qui réussissait, et parce que j'aime les gens qui réparent les fractures sociales de mon pays. Je me fous pas mal de que ce soit des politiques ou des associations ou des entreprises.
Alors, on parlait des ZFE il y a quelques instants. C'est particulier ou il faut rester vigilant?
En principe, on a une vraie majorité au Sénat et la commission mixte
paritaire.
Va nous être favorable. Mm-hmm. Donc, je suis pas anxieux de ce jour-là, sur ce point-là, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si le président va actionner ses copains au Conseil constitutionnel,
oui,
pour déclarer quasiment la guerre à la population.
Vous pensez qu'il est en position de le faire?
Je pense que affronter 8 Français sur 10, un Parlement, une majorité de maires, c'est hasardeux.
Oui, c'est hasardeux. Bon, en même temps, il se représente pas. Hein.
Oui, mais c'est très structuré aujourd'hui, le mouvement des gueux.
Oui.
Et donc, je ne leur conseille pas de provoquer un peuple entier avec une loi coercitive.
Vous pensez qu'on reviendrait aux gilets jaunes? Ou une phase...
Si on commence à exclure les pauvres des villes pour purifier l'air des riches, je ne suis pas certain que dans une république où maintenant on le sait, il y a 8 Français sur 10 qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il faut qu'on reste un grand peuple républicain, ouais, assis sur des valeurs.
Vous pensez pas que les gens sont désabusés, qui luttent de moins en moins?
Non, pas du tout.
Non.
Le mouvement des gueux est sorti de terre à partir de rien, et on est arrivé à faire plier.
Quoi?
Bah, les ZFE.
Les ZFE, mmh, oui. On est arrivé à les faire abroger au Parlement.
Bon, alors, je vous écoute.
Mais là, ce qui nous inquiète pour nos côtes...
On va y venir au votre dernier coup de gueule, hein. C'est contre le plan pluriannuel.
C'est pas un coup de gueule, hein.
C'est une lutte.
Ouais, c'est une lutte.
Oui, c'est une lutte, contre le plan pluriannuel de l'énergie, hein. C'est 300 milliards pour rien, comme l'a écrit dernièrement le journal du dimanche. Un résumé de la situation.
Le résumé, c'est simple. On a une énergie en France dont la consommation stagne à peu près, ou régresse. Mmh. Et qui est déjà presque entièrement décarboné, parce qu'on a du nucléaire qui est décarboné, de l'hydraulique qui est décarboné, et déjà des installations d'éoliennes qui sont considérables. C'est l'équivalent de les Français le savent peut-être pas, mais on a déjà l'équivalent de 54 centrales nucléaires. Mmh. Donc on est déjà décarboné, et tout à coup il y a une loi extrêmement idéologique qui propose un plan d'investissement de 300 milliards sans qu'on nous ait dit la vérité, c'est que ces 300 milliards, c'est vous qui allez les payer par un doublement de votre facture électrique.
C'est-à-dire
et que, quand vous dépensez 300 milliards, il faut bien que ce soit payé par quelqu'un.
Ouais, de toute façon, en France, c'est toujours payé par le contribuable.
Oui, mais là, c'est pas le contribuable parce qu'il est déjà asséché. Mmh. C'est la facture EDF.
Oui.
Et dans le mouvement
ça
des gueux,
ils vont chercher de l'argent partout parce que tout le monde a besoin d'énergie.
Oui, mais surtout, pourquoi pas si on en avait réellement besoin ou qu'on avait. Mais on est déjà. On va pas décarboner deux fois. Et si on le décarbone deux fois, vous allez le payer. Et donc, on s'est lancé dans ce combat et on va le gagner parce que le mouvement des gueux a embarqué l'UFPA, les pêcheurs. Mmh. Mais aussi les paysans avec la coordination rurale.
Oui.
Mais aussi de plus en plus de mouvements de mer, d'associations. Et là, on va se réunir demain dans quatre endroits
oui.
Maritimes en France.
Oui, Cherbourg. Donc ça sera bloqué. C'est quoi des blocus de port?
Ce sont des grands rassemblements où il y aura les paysans, les pêcheurs, les associations de mer, dans des mers. J'insiste parce que les combats des gueux sont toujours avec les maires. Je veux que ce soit des combats républicains.
Les maires, c'est les plus proches de la population en général.
Ben oui, c'est la République qui marche encore. Mmh. Qui n'est pas déconnectée, quoi. Parce que les gens vivent. Les élus locaux vivent avec les autres.
Oui.
Et on veut porter dans l'ensemble des médias français l'attention pour que le gouvernement en douce n'aille pas passer ça par décret.
Ça a été passé par décret. Ça a été annulé,
oui.
ça c'est.
Non. Ils ont fait un vote mardi dernier qui laisse les mains libres au gouvernement pour passer par décret pendant l'été quand vous serez sur les plages.
Et 300 milliards, vous pensez que c'est jouable de passer par décret? On va pas commencer à
regarder. Mais c'est dément.
Oui, c'est dément, mais 300 milliards
dément.
Sur 5
c'est
ans.
C'est dément. Mais c'est surtout que c'est même pas sur 5 ans. C'est, puisque c'est des investissements, donc en fait vous enclenchez ça assez vite. Donc ça passera assez vite sur votre facture d'électricité. Et on veut pas de ça aussi pour plein de raisons. D'abord parce que je veux pas qu'on défigure ce pays de manière absurde. Mmh. Je veux pas qu'on coule 3 millions de tonnes de béton en défonçant les fonds marins pour fixer ce genre d'appareil. Surtout pour rien, parce que c'est déjà décarboné.
Donc est-ce qu'on peut passer en revue rapidement le texte qui est en préparation? Dans le projet, il est noté de réduire la consommation des énergies fossiles. On est à 3,7 hein, de mémoire. C'est quoi l'ambition du gouvernement? Alors quand je dis fossile, hein, c'est fuel et gaz.
Mais pourquoi pas ailleurs? Mais pas dans la production d'électricité, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et pourquoi est-ce que des hommes comme Proglio, qui était l'ancien patron d'EDF, des gens comme Gallois, qui était l'ancien patron d'Airbus et de la SNCF, des hommes comme Accoyer, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, pourquoi ils font des tribunes pour dire « arrêtons de faire n'importe quoi ». Ce sont des gens qui savent compter.
Oui, des entrepreneurs.
Oui, ce sont des gens qui savent compter. Et ceux-là, ils disent « stop ». Stop, vous êtes en train de faire n'importe quoi.
Alors pourquoi cet entêtement?
Je vais vous dire, je pense qu'au départ, il y a une solide dose d'idéologie.
Pas que
pas que, il y a aussi du gros business.
D'accord, c'est
parce que les 300...
Oui, ouais.
Les 300 milliards, vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est 5 fois le budget de l'éducation nationale. Hein. Donc, évidemment que là, vous avez tous les groupes mondiaux, chinois... les fonds de pension américains. Et pourquoi ils se goinfrent là-dedans? Parce que l'État leur a garanti un achat de 200 euros le mégawattheure, alors que le prix du marché est autour de 50.
Le prix du marché, c'est 42 euros de mémoire.
Oui, voilà, 42. Oui. Bon, ouais. Ça peut varier. Mais toute la différence est payée par vous et moi sur les factures d'électricité. Donc, c'est comme, pour moi, c'est comme un énorme braquage du peuple français. Par voie légale, qui va casquer pendant 20 ans ces contrats terrifiants. Et si ça passe cet été, les décrets, ils vont pouvoir signer les contrats à partir de la rentrée, et les contrats ils vont durer 20 ans.
Ça veut dire que l'électricité va augmenter de combien?
Va doubler,
c'est ce qu'ils prévoient de toute façon. On dit que l'électricité n'est pas chère en France.
Alors ça, c'est vraiment un point de vue de techno. Demandez au peuple français s'il ne baisse pas son chauffage l'hiver. Demandez aux boulangers ce que ça leur coûte pour rester ouvert. Si on monte de 10-15%, vous avez une majorité de boulangers qui sont plus rentables, qui doivent fermer.
Mmh. Et les gens vont pas pouvoir payer, alors c'est quoi la solution pour eux?
C'est de faire pression, d'aller dans les rassemblements des gueux, avec les marins pêcheurs, avec les pêcheurs artisans, avec les paysans qui se battent pour eux, mais pas seulement. Les pêcheurs, il faut aussi dire la vérité. Quand, en gros, ils ont dans leur charge, le fuel, c'est à peu près 40%.
Il est détaxé si aussi, c'est pas le même prix qu'on touche.
Oui, mais ça me fait 40 oui. Quand même.
Mmh, d'accord.
Si on les oblige à aller pêcher beaucoup plus loin, à 20, 30, 40 000 des zones de pêche habituelles, ça veut dire que la facture, elle va passer de à peu près de 40 à 55. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une marge de 15? Non, donc ils ferment. Ça veut dire qu'on n'aura plus de pêcheurs. On n'aura plus de boulanger. Ça veut dire que c'est n'importe quoi.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire reculer le gouvernement? On a vu, notamment à l'époque des retraites, il y avait beaucoup de gens dans les rues, et c'est tout de même passé.
Bah, les ZFE, on a gagné.
Oui, les ZFE et les retraites. C'était, oui. C'était trop important pour le gouvernement?
Je ne veux pas qu'on se fasse tondre.
Bon, et une mesure dans...
Non, mais pour rien, surtout. Bah, tout ça pour engraisser des fonds de pension et payer des retraites canadiennes ou américaines.
Ça veut dire quoi? Payer les ceux qui, qui achètent de l'électricité à 42 euros et qui la revendent 200?
Oui.
Des entreprises comme Total Energy, Eni et bien d'autres.
Et surtout d'énormes groupes internationaux qui ont investi là-dedans en se disant on va pomper le contribuable français avec la complicité de l'État.
Vous êtes pour la construction de nouveaux EPR?
Alors,
ce qui pourrait pallier les éoliennes.
Non, mais on n'a pas d'augmentation massive. On est plutôt en train de régresser. On est à peu près au niveau de la consommation de 2006. Donc, alors, on doit renouveler une partie de notre parc.
Oui.
À terme, je suis plutôt pour la quatrième génération, pour qu'on investisse massivement dans la quatrième génération, tout simplement parce qu'elle tourne avec les déchets des anciennes centrales.
Avec du MOX.
Et avec les déchets, on en a pour 1000 ans d'autonomie en France. Mmh. Donc, bien sûr qu'il faut investir là-dedans.
Et dans la quatrième génération.
Et ça décarbone. Ça décarbone. Ouais,
parce que c'est pas dangereux de mettre toujours tous les œufs dans le même panier. Avoir une part du nucléaire, je crois qu'on doit être à 69% à peu près actuellement. C'est pas dangereux.
Ce qui est très dangereux, c'est de prendre dans la précipitation, de faire un chèque en blanc de 300 milliards. Mmh. Nous, ce qu'on a demandé au Parlement, et on a perdu là, c'était un moratoire, le temps qu'on refasse les comptes de manière paisible, en impliquant l'ensemble des partis politiques, jusqu'à ce qu'on trouve une solution non délirante pour le français.
Oui, qui serait la solution?
Un mix... qui ne partent pas sur des hypothèses d'explosion de la consommation qui ne sont pas vraies. Mmh. C'est de la propagande. C'est des gens qui veulent vous vendre des trucs et le faire payer au peuple. C'est pas vrai.
Il faudrait qu'on revienne aussi au tarif français d'électricité et pas européen.
Voilà. Ça sera sans doute une autre campagne que les gueux mèneront.
Ça sera une bataille. Je crois que ça sera une bataille très importante. Après les 300 milliards, oui.
Et qu'on fasse que les Espagnols et les Portugais ont fait.
Donc, vous rappelez les différentes manifestations qui vont se passer demain?
Demain, à Dieppe, à 10h.
Oui.
À Cherbourg, à 15h, à cause de la marée, temps que les bateaux rentrent.
Mais oui.
Au gros du roi dans le sud. Mm-hmm. Et en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, où je serai, moi, demain matin.
Quelque chose à rajouter pour faire venir du monde dans vos manifestations?
Bougez-vous le cul.
Bougez-vous le cul. Bon, voilà.
Non, mais avant de vous faire tondre.
Oui, bah, 300 milliards, ça fait quelques sous, quand même.
Mais c'est effrayant, quoi.
C'est effrayant. 12h24, je veux vous laisser à votre autre rendez-vous, Alexandre Jardin. Merci en tout cas d'avoir été au micro de CFM. On marque une courte pause et on revient très vite. 12h28 sur CFM, l'émission de la rédaction se poursuit, on en parle, nous avions il y a quelques instants Alexandre Jardin qui est scénariste, réalisateur, écrivain et citoyen et qui lutte contre la PPE 3. Avec nous aujourd'hui Catherine Cousin et Yves Lescarou du golfe de Coutainville, Charlotte Lègle qui a sorti un disque et Casimir Musinski qui est mon sociétaire du jour. Alors c'est à nous, monsieur du golfe, messieurs dames du golfe, hein. On entend
bonjour.
Souvent, oui rebonjour, on entend
on
souvent...
On vous envoie la balle.
Merci voilà. Casimir, on va pas avancer. On entend souvent que le golf est réservé aux élites, c'est vrai, c'est encore vrai ou c'est réservé aux élites? Ça l'était,
non.
Ça l'était dans le temps.
Non, c'est l'image qui est renvoyée par le golf en général, mais non, à Coutainville, on est un club.
Ah, on parle pas de Coutainville, je vous parle du golf en général.
Golf en général. Bon,
pas
le
chez
golf
vous,
en général. Alors,
quand on revient dans l'ancien temps.
Il y a Trump qui l'a mort.
Non, mais ça, ben on oublie.
Non, non. Alors, effectivement, c'est
la mort de la trompe.
Casimir.
C'est l'image que renvoie le golf bien souvent. C'est, oui, ouais. Que c'est plutôt un sport réservé à une élite.
À l'époque, c'était au début, c'était au tout
ça,
début, au tout
ça,
début de golf, c'était quoi, les nobles.
Et maintenant, c'est quand même très ouvert ouais. Et de plus en plus. Et nous, on a la particularité à Coutainville d'avoir un golf de club, pas de membres plutôt. Et on a un golf complètement associatif, ce qui permet de faire des tarifs relativement bas pour pouvoir jouer au golf.
Et comment vous expliquez l'engouement du golf aux États-Unis par rapport à l'engouement du golf en France ?
Ah, je crois qu'il y a un certain nombre de champions de golf aux États-Unis qui forcément ont...
Oui, mais pour avoir des champions, il faut des licenciés, c'est ça.
Il faut des licenciés.
Ça se mord un peu la queue,
cette histoire.
Les pays
sont un peu différents, quoi. États-Unis, France, voilà. Quand on fait un ratio entre la population qui est aux États-Unis et chez nous, plus les installations de golf qui sont quand même beaucoup plus importantes aux États-Unis avec des grands parcours très réputés, effectivement.
Ils ont plus de place.
Plus des grands
ils
championnats. Enfin, ils ont des beaux championnats.
Ouais.
Et puis, il y a, tout à l'heure, on parlait de groupes industriels, etc. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de fric, pas d'argent.
D'argent,
aux
c'est mieux.
Qu'en France. Ouais.
Néanmoins, le matériel coûte cher.
Matériel coûte cher, mais on ne le change pas tous les ans non plus. Donc, ça
en parlant de matériel,
ça vit voilà,
pas. Quelques années.
Alors, qu'est-ce qu'il faut exactement comme matériel pour commencer le golf ?
Ah bah, il suffit d'avoir des clubs de golf, des balles,
les clubs,
et puis un peu d'humilité, parce que jouer au golf, c'est pas toujours facile.
Des clubs, on est obligé de tous les... Il y en a combien d'ailleurs ?
Bah, au maximum, on peut avoir 14 clubs dans son
14
sac.
Clubs,
enfin,
voilà.
Si on a une demi-série, c'est-à-dire si on a 7 clubs dans le sac, ça suffit.
Pour avoir 14 clubs.
Il n'y a pas besoin de banque.
Ah bon ?
Non.
Ça coûte combien, quoi, un équipement complet, on va dire ?
Un équipement complet, à peu autour de 1000 euros, vous avez un équipement.
Oui, c'est pas excessif non plus.
Non,
quand
non,
on regarde la
non,
croisière ou.
Cheval,
ça fait combien
de
cheval, acheter un cheval.
Ouais, c'est un peu plus cher.
Oui. Non,
ah bah,
je pensais que quelqu'un allait parler. Vous vouliez parler, Charlotte.
Chose. Non, j'écoute.
Ah bon. Est-ce qu'on peut louer le matériel si
ouais,
on n'a pas les
sûr.
Moyens de jouer
On loue pour... et on prête même. Enfin, nous, à Coutainville, on prête du matériel pour jouer au golf. Oui.
D'accord, l'abonnement. Alors, ça se passe comment ? Il y a un abonnement c'est,
Alors, pour alors, les membres,
si
il y a
est...
un abonnement annuel.
Ouais.
Donc, il faut acheter son abonnement plus une licence à la Fédération Française de Golf.
Ouais, comme
et puis après, on joue autant de fois qu'on veut. Voilà,
et donc, on peut jouer sans avoir d'abonnement à la journée, on va dire.
On peut jouer à la journée, mais à ce moment-là, on paye ce qu'on appelle un green fee, c'est-à-dire un droit de jeu pour la journée.
D'accord. De quel milieu viennent vos adhérents ? De tous les milieux ?
C'est
ça vient des
très ouvert. C'est très ouvert. Alors, bon, après, c'est une moyenne d'âge plutôt relativement élevée. Hein.
Enfin, d'accord, il faut avoir le temps.
Dans le retraité, oui, parce qu'une partie de golf, c'est 4 heures.
Oui, d'accord.
Donc, il faut quand même avoir du temps pour faire une partie de golf et donc être libéré de pas mal d'obligations et notamment de son activité professionnelle.
Et qu'est-ce que recherchent les gens dans le golf ? C'est quoi ? C'est un isolement ?
C'est un havre de paix quand même.
Ouais.
Enfin, c'est un milieu vert, très bio, parce que nous, à Coutainville, on a la chance de pas traiter notre golf, c'est-à-dire qu'on fait que du bio, c'est complètement naturel. Et puis, c'est un lieu de rencontre. Lieu de rencontre, de convivialité, il y a la bonne humeur, voilà, il y a le 19e trou, qui est connu par les golfeurs.
Alors, c'est quand même la troisième mi-temps au rugby.
C'est un peu ça. Oh, c'est peut-être un peu moins festif que la troisième mi-temps du rugby,
un peu plus posé.
On refait sa partie, et puis on échange entre amis, quoi.
Au golf, ça se joue en famille ou ça se joue entre amis ?
Alors, on a des familles de golfeurs,
ouais,
où il y a le grand-père, les enfants, les petits-enfants, c'est mon cas.
Ouais.
Et puis après, il y a des gens en individuel et qui rencontrent, qui sont des amis au golf.
C'est quoi ? C'est un match entre deux personnes ?
Non, souvent, c'est plutôt un match contre soi-même. Parce qu'en fait, le résultat, on ne l'acquiert que par ses propres coups, par ses propres efforts, par son activité. Donc, après, forcément, il y a des rencontres où on se fait des petites rencontres avec des challenges entre soi, mais c'est plutôt un challenge pour soi-même.
En fait, c'est un moyen de s'entretenir sur le plan physique, et notamment chez les personnes âgées. C'est un médicament.
Ah, exactement.
Donc à la limite, il faudrait le recommander à tout le monde.
Très bonne thérapie.
Mais c'est des médicaments qui coûtent cher, pas remboursés par la sécu. Mais comment fait-on?
Mais par contre, il y a certaines mutuelles qui remboursent la licence.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai.
Ouais. Non, bon. La mienne en particulier rembourse la licence. Justement pour favoriser la pratique du sport.
D'accord.
Et alors, quelle est cette mutuelle qui rembourse?
Je ne vais pas la donner tout de suite. Je n'ai pas d'action dedans. Donc
il ne faut pas faire de pub à la radio, c'est interdit.
Ça apporte du bien-être.
Le temps pour un néophyte de savoir jouer à peu près.
D'apprentissage. C'est quelques mois, une petite année, et puis on arrive à aller sur le parcours. Ouais.
Il y a des jeunes aussi qui viennent.
Oui, on essaye de développer auprès des jeunes. On est une école de golf où il y a 40 enfants de 6 à 16 ans qui pratiquent le golf, qui viennent chaque mercredi, le samedi. Mais c'est sûr que la population est plutôt dans la moyenne d'âge que je vous ai donnée que chez les très jeunes. Et c'est un peu notre politique, c'est ce qu'on veut essayer de développer, c'est la pratique du golf auprès des jeunes.
D'accord. Et ces jeunes, parmi ces jeunes, il y a des pépites ou des gens qu'on se dit, tiens, celui-là, il n'est pas mauvais.
On a eu une pépite, enfin on l'a toujours puisqu'il est toujours membre au club. On a eu Nathan Legendre qui a été champion de France de golf amateur en 2022, donc qui est issu complètement à 100% de l'école de golf. Il est toujours licencié, il est toujours membre à Coutainville. On le voit très peu, il joue sur le parcours européen, donc il est en deuxième division du golf européen.
Est-ce que ça rapporte à son
ça
niveau.
Peut rapporter, rapporter, mais là pour l'instant il débute, donc il fait ses premières armes, il est passé professionnel l'année dernière, donc il faut lui laisser le temps de gravir les échelons. Ils sont nombreux à se présenter dans ce domaine, donc on y croit fort et franchement notre fort espoir sur
c'est un coup de projecteur sur le golf.
Ça aide bien sûr d'avoir un champion de France au sein du club. Il faut profiter, il faut s'appuyer sur sa présence pour dire le golf c'est accessible, ça peut être prometteur et voilà.
Ouais, c'est fragmenté le golf, il y a les cadets, les juniors, les seniors ou c'est tout est mélangé?
Non, tout n'est pas mélangé. Selon le niveau de jeu, il y a différentes séries. Enfin, il y a des très bons qui vont être dans l'élite. Il y a et puis selon l'âge aussi.
D'accord.
Les gens qui ont plus de 70 ans ont des points de départ qui sont un peu plus avancés que ceux qui ont...
C'est un 18 trous, je crois.
C'est un 18 trous à Coutainville. Depuis 1996, on est passé 18 trous. Ouais.
Donc c'est un avantage d'avoir 18 trous par rapport aux concurrents qu'on est peut-être un peu moins. C'est plus élitiste de dire je vais faire un 18 trous que, alors je sais pas, c'est peut-être 9.
C'est pas élitiste, mais disons que les gens préfèrent faire 18 trous que 9 trous. Donc à payer, ils préfèrent faire 18 trous. Alors 4 heures, alors effectivement, peut-être que le devenir, dans 10 ans, les gens rechercheront peut-être plus 12 trous parce que ça prendra moins de temps.
Il y a moyen chez vous de dire on va faire simplement la moitié.
On peut faire que 9 trous, effectivement, on peut prendre un droit de jeu pour 9 trous.
Ouais.
Pas de cotisation 9 trous parce que d'accord. Parce que ce soit un 9 trous ou 18 trous, dans la mesure où on a un 18 trous, on a une charge d'entretien qui est importante.
Ouais.
Donc, forcément, je peux pas.
Ouais. C'est quoi les règles de bienséance quand on joue au golf?
Alors, c'est ce qu'on appelle une étiquette. Ouais. C'est éviter d'avoir le téléphone qui sonne sans arrêt, de crier. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on recherche, c'est du calme. C'est de bien se tenir, la sécurité des uns et des autres. Il ne faut pas taper des balles quand il y a des gens qui sont juste devant soi.
Ils sont en train de traverser.
Voilà, il faut prendre des mesures de sécurité, faire attention aux autres.
Le jardinier, c'est la personne la plus importante.
C'est le cœur du réacteur, si on fait un clin d'œil à ce qui se disait tout à l'heure. C'est le jardin, enfin le parcours, c'est ce qui est le plus important dans un
d'accord.
golf.
D'accord, vous avez combien de jardiniers à
on
disposition?
On a 6 jardiniers à plein temps qui travaillent 7 jours sur 7 sur le golf pour entretenir le parcours. Ouais. Ça c'est important, il faut le tendre tous les jours quasiment.
Il y a plusieurs choses, il y a des bunkers. Alors allez-y, plusieurs. Parce que les termes techniques, je connais le green, je connais les bunkers, reste, je connais.
Il y a un titre départ, ce qu'on appelle un titre départ, donc c'est une plateforme de départ, c'est là où on commence le trou. Le tee, c'est le petit outil qu'on plante dans la zone de départ et pour lancer le plus loin possible. Pas forcément. Après, il y a le fairway, donc c'est la zone de jeu sur laquelle on doit essayer de taper la balle, orienter la balle. Et puis après, sur ce fairway, il peut y avoir des bunkers qui sont des obstacles. Il peut y avoir des obstacles d'eau. Nous, à Coutainville, on a pas mal d'obstacles d'eau parce que avant c'était un marais, donc il y a des ruées, il y a des mares. Enfin bref, ça participe à la difficulté du parcours. Après, une fois qu'on a fait le fairway, on arrive sur un green sur lequel il y a un petit pot de 10 cm de diamètre dans lequel il faut mettre la balle.
C'est là que c'est bien tondu.
Et c'est là que c'est tondu, très rare.
Ouais.
Pour que la balle roule bien, qu'elle ne soit pas désorientée quand le joueur... En fait.
Pourquoi vous avez pris la présidence du golf de Coutainville? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette folie?
Quelle idée
Je me le demande tous les matins. C'est ce qu'on dit toujours. La présidence, vous êtes à la retraite,
Oui, oui, oui. Vous
vous êtes dit, ça va être un peu juste.
Ça s'est fait un peu accidentellement parce que j'ai pris la présidence fin 2020.
Après le Covid.
Après le Covid, ouais. Et voilà, mon prédécesseur en avait plutôt pas le bol, il avait vécu la période de Covid qui était compliquée pour lui, et puis pour toutes les équipes.
Pour toutes les personnes.
Et je me suis trouvé là, et il fallait qu'il y en ait un qui se désigne,
ouais.
Majoritairement, même à l'unanimité, le comité à l'époque avait...
Les volontaires fait un pas.
C'est toi.
Mais tout le monde a reculé.
Tout le monde s'est dit, bah tiens, ça serait pas mal que ce soit toi. Et non. Voilà, et depuis je suis tombé dans la piscine, et je reste pas dans la piscine, si on peut dire.
Le golf a 100 ans, je crois, c'est cette année.
Oui.
Donc, pour fêter les 100 ans, qu'est-ce que vous avez préparé?
Alors, on va demander à
la chef de la communication, ouais. Catherine Cousin.
Oui, merci. 100 ans, c'est être centenaire aujourd'hui. C'est un bel anniversaire en soi. Coutainville, c'est une image de villégiature. Et le golf est vraiment tout ce qui représente le bien-être, le plaisir d'être en bord de mer, la quiétude. Donc, ça, c'est une image forte, je trouve, pour la ville et pour le golf. Alors, 100 ans, le désir de l'association, c'était d'ouvrir ses portes à l'extérieur, puisqu'on l'a dit un petit peu, vous le disiez en ouverture, c'était quand même un petit peu élitiste. Mmh. On avait l'impression que c'était du sport.
Non, je suis convaincu que c'était une impression.
Voilà.
Oui, voilà. Merci.
C'était, voilà. Et ce n'est pas un sport, ce n'est pas une activité fermée. C'est une activité où on rencontre beaucoup de monde, de tous milieux sociaux. Et on connaît pas mal de chefs d'entreprise qui ont plaisir à venir à jouer parce que, voilà, c'est un gros sas de décompression. Et justement, 100 ans, on s'est dit... C'est l'occasion de... Il y a des expositions qui sont hors les murs. Mmh. Eh bien, nous, on a fait le golf de Coutainville sort de ses murs. Et on a imaginé... moi, je suis arrivée dans une équipe où il y avait déjà des choses de décider.
Vous êtes arrivée avec du 109.
Alors, un petit peu.
Une vision externe, c'est ce qui est toujours intéressant.
Pas tout à fait jeune, mais du 109 quand
même. Du 109.
Et voilà. Et donc, il y a eu cette décision d'aller faire découvrir le golf parce que les gens, par nature, ne vont pas dire, bah tiens, il y a un golf. Je
vais aller faire un tour et puis regarder comment ça se passe.
Donc, on a imaginé deux expositions photos, une au club de golf. Donc là, les gens auront le plaisir de venir la voir. Elle sera présentée tout juillet-août. Et on est en partenariat aussi avec la ville de Coutances, puisqu'il y a une exposition au musée Quesnel-Morinière qui s'appelle « L'appel de la mer ». Et c'est surtout l'historique de cette naissance des bains de mer où, on le disait tout à l'heure, tout ça est venu, on le découvre dans un très beau livre dont je vais vous parler tout à l'heure. C'était les médecins qui disaient aux gens, aux citadins, « allez vous reposer, allez prendre les bénéfices de la mer ». Donc, dans cette expo à la ville de Coutances, eh bien, au musée, il y a un corner pour le golf, pour les 100 ans.
Alors, corner, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est un
terme technique.
C'est un stand, voilà. Pardon. Oui, c'est un stand à aménager avec quelques belles anciennes photos. Et là aussi, où on va venir vers les visiteurs du musée à l'occasion de deux journées, une en juillet, une en août, pour faire découvrir le golf avec une structure gonflable où les gens pourront venir utiliser un putter, faire quelques coups de golf et on leur fera découvrir cette
belle activité. Une petite initiation, c'est pour mettre le pied à l'étrier,
voilà,
comme on dit.
Exactement. Et tout ça est bien évidemment gratuit. Donc il y aura 7 journées cet été, donc en juillet et en août, répartis sur des lieux de la ville. Alors au-delà de ce musée de Coutances, tout va être dans les murs de Coutainville et il y aura la place de Gaulle, bien évidemment, la place centrale. Il y aura deux journées d'organisées aux portes du marché, les samedis. Et il y aura aussi une animation au Passou, qui est en train, un petit quartier qui est en train de devenir vraiment très, très vivant.
Il a toujours été vivant, le Passou.
Toujours, oui, mais là, vraiment, il y a beaucoup d'efforts de fait. Et voilà, on ira vers le Passou également. Donc là, ce seront des journées d'animation où tout le monde pourra venir découvrir l'activité, ce qu'est le golf, combien ça coûte, etc. Donc ça, c'était une... Et puis, il y aura deux journées sur la place de Gaulle qui se termineront par des animations musicale animée par Jean Richard. Donc voilà, ce sera le petit côté festif du 100 ans et au Passou
aussi.
Également.
Exactement. D'accord. Un site internet qui rappelle toutes ces manifestations.
Oui, alors sur le site du golf de Coutainville, bien évidemment, on retrouve tout ça. Il y a, au-delà de ces animations, il y a des animations gratuites qui vont être proposées par nos deux professionnels, Mathieu et Arthur. Donc là, les gens s'inscrivent et là auront un peu plus qu'un toucher de club. Là, ils pourront venir découvrir des coups au practice. Je dirais la cerise sur le gâteau d'anniversaire, ce sera l'ensemble des compétitions qui vont avoir lieu, parce que tout golfeur aime bien en découdre sur un parcours. Et le 31 juillet, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 août, ce sera le défi des 100 ans. C'est un ensemble de compétitions très diverses et à année exceptionnelle des 100 ans, ce sera une organisation exceptionnelle. C'est-à-dire que des compétitions sur des 9 trous et pas des 18. Mmh. Ce sera hors classement, les gens, toutes les personnes qui aiment faire du golf peuvent venir jouer parce que leur l'index ne sera pas du tout mis en jeu ces jours-là. On veut vraiment que cette année, cet anniversaire, soit placé sous l'esprit festif. C'est vraiment Golf Club de Coutainville, en fait. Il faut que ce soit très convivial, la sportivité de chacun. L'étiquette, on en parlait tout à l'heure, c'est du respect, de l'humilité, parce qu'on peut jouer très longtemps, mais sans pour ça être vraiment de devenir des champions. Donc, il faut beaucoup de persévérance. Donc, ces compétitions auront lieu au mois d'août avec la célèbre Coupe des présidents, qui est une institution dans notre association. Et on terminera cette année festive par une opération qui se veut un petit peu plus écologique que les autres, c'est-à-dire que il a toujours été, et ça, il y a un livre donc, qui sort à l'occasion des 100 ans du club, qui retrace l'évolution du parcours, l'évolution, l'apport des différents comités et présidents qui ont participé à la construction de ce qu'est le golf aujourd'hui. Et tout au long de cette construction, il a toujours été apporté une grande attention à l'écologie, au développement naturel, au maintien des espèces et au maintien et à la sauvegarde de l'eau. Donc, des travaux encore sont aujourd'hui en cours, avec la reconstitution de mares qui existaient, des points d'eau, parce que demain, pour les golfs, l'importance et la difficulté, ça va être d'arroser de la façon la plus écologique possible.
Oui.
Donc, notre petite pierre à cet édifice, c'est à l'occasion des 100 ans, il va y avoir une opération 100 arbres pour 100 ans, qui est préparé avec le Collège des Embruns de Coutainville. Et il y aura 100 collégiens qui, au début novembre, vont replanter un arbre pour reconstituer ce que la tempête avait fait en 2023.
12h45, une courte pause et on revient tout de suite sur CFM.
CFM. On en parle sur CFM.
12h48, on en parle sur CFM avec Alexandre Jardin, Catherine Cousin. Alexandre Jardin était avec nous tout à l'heure, pardon. Catherine Cousin, Yves Lescarroux du golfe de Coutainville, Charlotte L'Aigle qui a sorti un disque et notre sociétaire du jour, Casimir Musinski. On n'a pas parlé du restaurant. Comment on mange
très bien, on est très bien.
Ouais, on est très bien.
Ouais, c'est un bon restaurant type brasserie et qui offre qualité et pas cher.
Ça veut dire qu'on peut passer tout
l'heure. Il faut y venir, c'est ouvert au grand public, à tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas un restaurant privé, c'est un restaurant ouvert au grand public.
On arrive à midi, on repère vers 17h.
On a passé une belle après-midi. Là, après, chacun peut trouver son temps. Mais par contre, il y a une belle vue dégagée sur le golf.
Ouais.
Donc il faut y venir. C'est franchement sympathique, de belle ambiance et ouais, on y mange très bien.
Des pistes d'amélioration pour l'avenir?
C'est ce que disait
Catherine
tout à l'heure. Il faut qu'on y travaille, nous, c'est sur l'eau, la disponibilité de l'eau, parce que ça, c'est un point crucial pour nous. Puisque notre souhait, c'est bien sûr, c'est de ne pas puiser dans l'eau de ville. Donc, c'est de recréer ou réactiver des mares qui existent à l'époque. Et puis, de bénéficier de la pluie hivernale pour faire des réserves d'eau.
Un mot de conclusion, Catherine Cousin.
Faites du golf. C'est très bon pour le moral et pour la santé. Le club de Coutainville, en toute objectivité, est un club vraiment très très sympa. Tout le monde est très accessible. Nous, on est arrivés en cours et on ne connaissait personne. Ça nous a donné énormément de connaissances et fait de belles amitiés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce club, il est tout en évolution tout le temps. Maintenant, ce qui nous reste à faire, eh bien, on le fait connaître auprès des gens de la commune et de la région. Il va falloir qu'on se vende aussi, entre guillemets, à l'extérieur. On va soigner maintenant qu'on a un très bel outil qui a été fait par les sportifs avant nous et puis les responsables. Maintenant, il nous reste à le dire à l'extérieur. qui dit activité de golf, dit des gens qui viennent, qui louent des gîtes, qui mangent au restaurant, qui vont dans les bars. Donc on ne peut que se féliciter d'avoir une telle activité, une belle association comme ça au niveau d'une commune, vraiment.
Merci, on va passer maintenant à Charlotte hein, qui a sorti un EP. Alors moi pour commencer je vais demander à Charlotte de me signer un autographe avant la fin de, avant la fin de cette émission.
Et est-ce qu'on va passer son disque ?
Tout à l'heure, on a déjà passé son disque, on le passera juste après, après l'émission. Je vais vous demander de vous présenter parce que j'ai regardé chez mes collègues de Wikimanche, vous êtes pas encore, vous n'apparaissez pas encore, donc je leur enverrai, on les a reçus ici, je leur enverrai votre interview et comme ça vous aurez votre page Wikimanche.
Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci de m'avoir invité tout d'abord. Donc en effet, je suis auteure, compositrice, interprète autodidacte, originaire de la Manche, plus exactement native de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été attirée par le domaine artistique. J'ai toujours aimé chanter, une passion que j'ai cultivée de manière autodidacte. Puis j'ai pris quelques cours de danse, appris à jouer du piano et de la guitare également en autodidacte. Et j'ai commencé à écrire mes textes, donc mes chansons à texte autobiographique.
C'était quand le déclic? Vous vous dites, à quel âge? Vous vous dites, tiens, je vais devenir chanteuse.
Waouh, j'étais très très jeune. Oui. Et ensuite, en effet... j'ai commencé à toucher voilà, le piano, ensuite la guitare.
C'est quoi le plus dur entre les deux? C'est le piano, la guitare? Mais comment on peut apprendre à jouer sans prendre de cours?
À l'oreille. J'ai une oreille musicale, en effet.
D'accord.
Et donc, voilà, j'ai écrit mes textes. La musique est un exutoire, à mon sens. Et à l'époque, donc, en poursuivant mes études universitaires en information et communication, j'ai travaillé comme graphiste dans une école de comédie musicale à Paris. C'est une expérience qui m'a permis de faire découvrir donc, mon univers acoustique, de rencontrer des artistes professionnels et notamment de prendre confiance en moi. C'est une expérience qui m'a engagée, qui m'a encouragée, excusez-moi, à monter sur scène et à affirmer réellement mon univers acoustique. Et donc depuis quelques années, en effet, je me produis en concert, secteur Manche et Calvados principalement. D'abord en duo guitare-voix, puis en trio avec basse. Donc un univers pop acoustique où on propose donc des reprises des chansons françaises et internationales.
Vos textes, vous les chantez quand même?
Alors oui, donc voilà, donc je les chante également lors de ces concerts. Donc en octobre 2021, donc j'ai sorti mon premier EP qui s'intitule Charlotte, enregistré à la Bay Road Studio à Ronton dans le sud de Manche. Composé de 5 chansons autobiographiques de style pop acoustique, guitare-voix, abordant 2 thèmes récurrents, donc l'amour et le drame. Et là, dernièrement, donc le 29 mai 2025, j'ai sorti mon nouvel EP Sans Toi.
Et votre triple casquette.
EP.
Alors,
on a dit que
voilà,
c'était un mini-album.
C'est un petit album, donc cet EP voilà, se compose de 6 titres. Donc toujours des chansons à texte autobiographique qui explorent l'amour sous toutes ses nuances. C'est un EP épuré, porté par le piano, la voix et le violoncelle. Il marque, à mon sens, une étape très importante dans mon parcours artistique, l'aboutissement d'un rêve avec une approche beaucoup plus intimiste, portée par le piano, qui est mon instrument de prédilection, et enrichi donc par l'ajout d'un violoncelle pour une immersion beaucoup plus profonde dans mon univers pop mélancolique, comme j'appelle.
Et la triple casquette, c'est important de maîtriser tout, l'auteur, compositeur, interprète.
C'est ça, exactement. Après, bon, voilà, en studio, on est suivi par des musiciens professionnels. Hein. Donc, pour la petite histoire, cette EP, donc, j'ai été élue lauréate en fait d'un premier tremplin musical organisé par le réseau CODA.
Ça vous donne confiance d'être une reconnaissance? On dit, tiens, il y a des gens qui m'ont écouté, qui m'ont dit, bah, c'est elle.
Oui, étant donné que oui, j'ai un grand manque de confiance en moi, en effet, oui.
C'était important pour vous.
Ça me donne un réel tremplin en fait pour continuer. Et d'où voilà, être lauréate du premier tremplin musical donc, organisé par ce réseau. Donc, il faut le comprendre, c'est un réseau d'entrepreneurs dédiés à soutenir la culture et le monde de la musique via les entreprises adhérentes, donc à l'association Pick Up Label. Donc, j'ai bénéficié d'un accompagnement professionnel et d'un financement donc, qui m'ont permis de concrétiser ce nouveau projet, soutenu également donc, par une cagnotte en ligne réunissant l'appui de mon public. Donc voilà, donc cette EP, si vous voulez un peu plus de précision, a été enregistrée en janvier donc 2025 au studio Pick Up à Caen. Et le mixage et le mastering donc, au North Shore Studio, parce qu'il faut savoir que ce studio a été repris par Duchesse, donc une équipe de création et de production musicale qui accompagne des artistes confirmés aujourd'hui comme Pierre Garnier, Joseph Kamel, Daisy et bien d'autres.
Et on les trouve où, vos titres, vos albums?
Alors,
vos EP? On les trouve où?
Alors, donc sur toutes les plateformes tels que Spotify, Deezer, YouTube Music. Voilà, on peut les écouter en tapant Charlotte L'Aigle. Mmh. Donc on va tomber en effet sur mes deux EP. Donc le premier s'appelle Charlotte. Et le dernier, Sans toi, qui est également un titre...
Et en matérialisé, ça n'existe pas?
Alors le premier, il existe en effet. Le deuxième, pour l'instant, non. Mais je souhaite en faire quelques exemplaires en effet.
12h55, on marque une courte pause et on revient avec Charlotte.
CFM. CFM. On en parle sur CFM.
12h58, on en parle sur CFM. Nous avions Alexandre Jardin il y a un peu plus de trois quarts d'heure. Catherine Cousin, Yves Lescarou du Golfe de Coutainville sont restés avec nous. On discutait avec Charlotte L'Aigle de la sortie de son EP. Est-ce que ça coûte cher? Je sais que celui-là vous l'avez, a été payé, a été financé parce que vous avez gagné ce concours. Est-ce que ça coûte cher votre passion?
Alors, en effet, après, tout dépend où on enregistre, etc. Mais après, c'est une passion qui coûte cher, évidemment, avec entre les instruments, les micros, le matériel déjà. Et puis ensuite, voilà, si on souhaite enregistrer, selon le studio, en effet, ça peut
monter plus. Assez vite,
ouais,
c'est
voilà,
ça.
Exactement, et selon aussi le nombre de titres, d'où EP, parce que voilà, c'est entre 5, 3, 6 titres, on va dire.
Ouais.
L'album, tout de suite, là, on passe dans une autre tranche et après, c'est un...
Oui.
Que j'avise, mais pour l'instant, voilà, on reste.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur scène avec des gens devant soi? Parce que là, je vous sens un peu timide.
Alors, moi,
vous n'avez pas mon micro.
Non,
mais c'est
après,
peut-être chanter qui vous libère.
Une fois que je chante, voilà,
c'est
une libération.
La
en effet, c'est je me libère via la composition musicale, la musique. J'évacue vraiment toutes mes émotions et d'où dans mes chansons. En effet, j'y mets vraiment tout ce que je ressens au plus profond de moi. Donc, c'est mes peurs, mes souffrances, mes peines, mes sentiments. Voilà, comme je le dis, chaque mot et chaque note résonne comme un fragment de mon âme dans mes compositions musicales.
Vous avez un agent?
Non, pas encore.
Vous en recherchez un? Comment on fait pour avoir un agent? On envoie des maquettes aux maisons de disques?
Oui, on peut, en effet, et après, voilà, après c'est...
C'est ce que vous avez fait? Vous avez fait cette démarche?
J'ai envoyé quelques maquettes, en effet.
Et les retours?
Et puis, pour l'instant...
Pour le moment, pas concluant.
Voilà, j'attends, il y a très peu de temps que j'ai fait la communication sur cet album. Mais en effet, je suis prête aujourd'hui à faire grandir ma musique, mais c'est une nouvelle étape qui demande des compétences professionnelles, évidemment, des moyens. Donc pour franchir ce nouveau cap et continuer à évoluer sur ce chemin de vie, je cherche à m'entourer d'un accompagnement artistique, un label ou un producteur pour m'accompagner et pourquoi pas réaliser prochainement donc un album complet. Qui prolongera donc cet univers donc de Sans toi, donc le deuxième album et le premier, hein, Charlotte, tout en ouvrant la porte donc à de nouvelles collaborations artistiques.
Vous voyez où dans 10 ans?
Waouh.
Au sommet de l'affiche, comme Aznavour.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Ah, je m'en doutais qu'il allait la connaître.
Encore plus gros que n'importe qui.
Non, c'est vrai que un rêve, après, voilà.
Vous avez
non, mais il faut avoir un rêve. Ouais.
Faire déjà une première partie sur une belle scène, ouais franchement... Ouais, ce serait vraiment.
C'est qui votre artiste préféré, enfin, on va dire votre modèle, celui que vous aimeriez bien suivre?
Sincèrement, j'ai pas forcément de modèle. J'aime des artistes surtout pour les chansons, entre guillemets, quelques chansons qui résonnent en moi, en fait, hein, comme une petite évidence. Non, il y a Juliette Armanet que j'aime beaucoup, Lana Del Rey, voilà, tout cet univers un peu mélancolique malgré tout. Après, j'ai pas d'artiste réellement.
Faut avoir du talent maintenant pour réussir ou ça suffit pas?
Ça suffit pas, je pense.
Ça suffit pas, donc il faut avoir des connaissances surtout.
Je pense que oui.
Avoir des radios qui mettent la musique, et les gens apprennent à l'aimer, c'est ça?
Oui, puis voilà, faire grandir le cercle aussi, le réseau tout simplement. Hein,
Donc vous allez pouvoir compter sur TFM.
Exactement.
Voilà.
Oui, bien
déjà passé le titre tout à l'heure, on le reprend ça d'ici quelques instants.
Okay. Voilà,
le titre, c'est le funambule
que j'ai écrit en effet.
C'est votre titre préféré actuellement?
Alors sincèrement, c'est le premier de cette EP, mais le funambule, je l'ai écrit en hommage à ma tante défunte, donc Simone. Je suis une personne très spirituelle et cette chanson, donc dans cette chanson, j'exprime ce lien d'amour qui perdure, qui va au-delà du visible, une présence bienveillante qui me donne une force, un réconfort, me guide. Et c'est une façon d'avancer avec plus de confiance sur mon chemin de vie, tout simplement.
D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter?
Non, c'est merveilleux.
Charlotte.
Merci beaucoup.
Donc on applaudit Charlotte.
On sent qu'elle vit sa passion. Ouais.
Merci beaucoup.
Allez, c'est l'heure des cartes blanches à 13h02. Qui commence?
Alors moi, je vais attaquer.
Ah bah ouais. Sans vous faire rire.
Il faut que je libère ma parole. Si je ne libère pas ma parole, j'aurai des difficultés et ça va m'étouffer. Alors je voulais vous parler d'abord de... l'avenir de la clinique dont on nous a parlé, qu'elle serait éventuellement transformée en centre de consultation. Et
d'après les informations qu'on a, Madame Buzyn, ancienne ministre de la Santé, nous disait qu'on ne pourra pas avoir le monde de consultants spécialistes avant 2030. Donc on les faisait venir de Saint-Lô ou de Caen, et la route Saint-Lô-Caen n'est pas forcément une route facile, ça demande du temps, ça fatigue les gens.
C'est pas une
quatre voies. Je suis pas convaincu que ce soit la meilleure des choses. J'avais un de mes anciens collègues qui appelait ça de la médecine foraine. Ouais, oui, bon. Peu importe. Mais bon, voilà un peu comment ça. Alors, il y a le maire de Montmartin, qui me semble tout à fait lumineux, avait proposé de faire de la clinique le centre de la CMB, Coutances-Mer-et-Bocage, pour mettre les 200 employés qui sont là-dedans. Il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de chambres.
Le parking est quand même réduit. Hein, parce
non,
qu'il
y a
quand
même, quand même... Le parking plus haut, il y a de la place. Mm. Et il y a plein de chambres, il y a des prises de courant partout, des chambres qui peuvent être des bureaux pour chacun des employés, ce qui est pas mal du tout. Voilà. Et je pense que c'est un avenir, parce qu'on voulait le mettre dans le centre diocésain qu'on a acheté aussi, la CMB. C'est un agent de immobilier particulier avec l'argent, bien sûr, des contribuables. Parfait. Et donc, cette espèce de passage dans la clinique me paraît tout à fait raisonnable. C'est une bonne chose. Et ce qui peut être fait, on a un hôpital à côté, on a un centre de santé à côté, peut-être fait là, dans cet endroit qui existe. On voulait en faire dans le temps une EHPAD et une maison de retraite. Et puis ça n'a pas marché parce que les gens qui avaient de l'argent à la clinique et qui avaient de l'argent à la radiologie se sont débrouillés pour vendre leur part. Et puis bon, c'est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on a vendu ça à des gens qui n'étaient pas très honnêtes. Et voilà. Donc ça n'a pas été vendu cher d'ailleurs, ça, 1 million d'euros et plus les frais, c'est pas énorme. Et alors c'est un banquier qui est à la tête de la CMB, et ce banquier, un employé de banque, travaille toujours avec l'argent des autres. Et donc ça ne change pas de travailler avec l'argent des contribuables, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que...
Mais moi, il a une expérience. On ne peut pas lui enlever ça.
L'expérience de soutirer de l'argent, oui,
non.
C'est long.
Non, Casimir, mesurez vos propos.
Non, mais je mesure mes propos. Ben, bien sûr, l'argent... Les banquiers
vont... Allez-y, finissez votre carte blanche.
Alors, je finis ma carte blanche en disant que confier la CMB à un employé de banque, c'est comme si on confiait les clés de sa cave à vin à un ivrogne.
Merci Casimir. Catherine Cousin ou Yves Lescarroux, votre carte blanche. Qui va se lancer?
Allez, je vais me lancer. Catherine me reprendra si je dis des bêtises. En fait, bon, le centenaire, on vient de l'évoquer. Je pense que pour que ce soit une réussite, tout d'abord, je voudrais remercier tous les partenaires qui nous suivent dans cette belle opération. Les personnels du golf également qui se donnent à fond pour que ce soit une réussite. Et maintenant, j'en appelle aux bénévoles pour qu'on soit le plus possible pour encadrer, animer toutes ces belles opérations qu'on a préparées avec Catherine et les équipes. Voilà.
Bon, à suivre sur le site internet du golf. 13h06, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'être venus au micro de CFM. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre compte Facebook, mais également sur le site internet, le www.cfm.fr, à la rubrique podcast. On se quitte en musique avec Charlotte Laigle. On écoute le Funambule sur CFM.
Je suis comme un funambule qui sur son fil déambule en équilibre à bascule. La peur du vide, je dissimule et j'avance droit devant moi. Je sens la chaleur d'un vent froid qui dans un souffle plein d'effroi me murmure le son de ta voix. Qui s'illumine dans le noir, le je me fais voir un mirage, je ne peux y croire. Dans une brume voilée, tes contours sont dessinés. Ta silhouette apparaît comme une étoile égarée. Venir